Luc, chapitre 15, et les versets 1 à 10. Et ensuite, nous ferons une seconde lecture dans Matthieu, chapitre 4, et le verset 17. Luc, chapitre 15, et les versets 1 à 10. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole: lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Une seconde lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4 et le verset 17. Matthieu, chapitre 4. Et le verset 17. Matthieu chapitre 4 et le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Amen. Jésus va commencer son ministère avec ces deux mots: repentez-vous. Pourquoi? Car le royaume de Dieu est proche. Et on est tous d'accord pour voir que, sentant que c'est palpable, que le royaume des cieux est proche, que Jésus est à la porte, que Jésus revient bientôt. Repentez-vous. Repentez-vous. La repentance est l'une des doctrines les plus fondamentales de la Bible. Mais elle est aussi l'une des plus mal comprises. Jésus va commencer avec ces mots: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ensuite, il dira à ses disciples, il les enverra deux par deux, et il leur dira: allez-y. Ils partirent, Marc 6, verset 12, ils partirent et ils prêchèrent quoi? La repentance. Et prêcha la repentance. De notre époque, on pourrait se dire, mais la repentance, c'est un mot qui est dur, un mot qui peut nous fermer, qui peut fermer notre cœur à la réception de l'Évangile. Mais non, au contraire, la repentance est d'actualité. La repentance, qui vient du grec metanoia, changer littéralement de pensée, changer littéralement d'état d'esprit, changer littéralement de conduite, de manière de se comporter. Alléluia. Celui qui vient à Jésus-Christ se comporte autrement. Il est menteur, celui qui dit qu'il s'est repenti et qui continue dans ses revers. Il est menteur. La véritable repentance se fait dans cette transformation-là, dans la foi en Jésus-Christ, de changer de pensée, de changer d'état d'esprit. Je ne marche plus comme mes camarades, comme ceux de mes contemporains marchent, mais je suis transformé, je suis renouvelé, je suis une nouvelle personne. Et je me base sur cette carte divine, sur la parole de Dieu, le mode d'emploi pour nous, chrétiens. Et si cela n'est pas ton cas encore ce soir, cet après-midi, moi je t'encourage à suivre ce chemin de la repentance, être transformé. Transformé de l'esprit, de la pensée. Mais cela ne se fait pas avec des efforts humains. Il se fait de la compréhension de ce qu'a fait Jésus à la croix, du calvaire pour nous. Dans Actes chapitre 2 et les versets 33 à 47, on lit ceci, c'est l'apôtre Pierre qui se lève alors qu'il a terminé un temps de prière. Il va se lever, il va dire un discours magistral devant des personnes qui étaient là et qui par la suite vont recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. On lit ça dans Actes chapitre 2 et les versets 33 à 47. Ensuite, Il a été enlevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui qui n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite. Le verset 35, jusqu'à ce que j'ai mis tes pieds comme un escabeau sous tes pieds. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude, c'est que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Et ils demandèrent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Changez d'attitude, repentez-vous. » Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, pour ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. Pierre continue avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et il les encourage en leur disant, « Recevez le salut. Séparez-vous de cette génération perverse, de cette race perverse. Séparez-vous. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient le repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui étaient sauvés. Repentez-vous. Alors qu'ils ont compris le message de l'Écriture, alors qu'ils ont compris la venue de Jésus-Christ sur terre, sa venue sur terre et l'œuvre expiatoire à la croix du calvaire, alors qu'ils ont compris cela, il dit, mais Pierre, que ferons-nous donc? Repentez-vous, changez d'attitude, frères et sœurs, changeons d'attitude, changeons notre manière de penser, notre état d'esprit. Il nous faut saisir la parole de Dieu telle qu'elle est et vivre les choses spirituelles profondes et puissantes. Et marcher en nouveauté de vie, de gloire en gloire, comme dira l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, à marcher de gloire en gloire. Alléluia. Avant de commencer ce partage sur la repentance, j'aimerais voir avec vous ce qu'elle n'est pas. La repentance, ce qu'elle n'est pas. Bien des gens confondent deux choses. Ils s'imaginent qu'ils doivent être terrifiés pour se repentir. Il y a des gens qui sont terrifiés, qui sont là et qui tremblent et qui sont alarmés. Mais la repentance n'est pas cela. On a l'impression qu'ils s'attendent à une sorte de frayeur qui s'empare d'eux. Il y a des multitudes de gens qui sont alarmés. Quand il y a des attentats, tous les hommes sont terrifiés, sont alarmés, mais ils ne se repentent pas. Vous savez, quand des pêcheurs, par exemple, vont à la mer, lorsqu'ils sont dans un bateau, ils vont à la pêche en eau profonde, alors qu'une tempête se lève et s'abat sur le bateau, parmi l'équipage, plusieurs crient à Dieu. Plusieurs crient en priant, peut-être involontairement, mais prient quand même d'être sauvés. Et ils sont alarmés, ils sont terrifiés, et ils crient à Dieu, ils prient. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils se repentent et qu'ils changent d'attitude. La repentance n'est pas non plus une impression. Bien des gens s'attendent à éprouver un sentiment extraordinaire qui va leur arriver tout de suite, qui va les amener à se repentir. Ils voudraient se donner à Dieu, mais ils n'osent pas le faire parce qu'ils attendent de ressentir les choses, d'avoir des sentiments qui soient forts au-dedans d'eux pour pouvoir se repentir. Mais cela n'est pas la repentance. C'est du sentimentalisme.
Cela n'est pas...
Il m'est arrivé d'aller en prison. Quand j'étais encore dans mon pays, il m'est arrivé souvent d'aller dans les prisons et de travailler avec l'aumônier qui était en place et qui partageait régulièrement, dimanche après dimanche, à ces prisonniers-là qui avaient commis des vols, des meurtres, qui avaient accompli des choses abominables. Et il apportait la parole et certains étaient là, stoïques, devant le message de l'Évangile. Ils étaient là, ils ne ressentaient rien du tout. Et d'autres qui étaient là et qui ressentaient de forts sentiments. D'ailleurs, un camarade qui avait senti au-dedans de lui des sentiments forts, et il s'est mis à pleurer, et il a pris conscience qu'il était pécheur, il a pris conscience que ce qu'il a commis, c'était un meurtrier, c'était pas bien. Mais quand il est ressorti, ça ne veut pas dire qu'il s'est repenti, parce qu'il a recommencé ses actes. Le sentimentalisme n'est pas la repentance. C'est lorsque radicalement je change d'état d'esprit. Je change de la manière de me comporter. J'étais voleur, mais je ne vole plus. Je volais mon travail. Admettons, je suis infirmier. Je vole les pansements, je vole pour garnir ma pharmacie personnelle à la maison. Je suis méchant et je continue ma méchanceté. Je continue à gravir les échelons envers et contre tout. J'utilise tous les moyens. Tous les moyens sont bons pour gravir les échelons. Non. La repentance n'est pas le jeûne et la mortification de la chair. Un homme peut jeûner durant des mois et des mois, des années et des années. Et ce n'est pas pour autant qu'il va abandonner un péché. J'ai eu un ami comme ça qui s'est affligé le corps à travers le jeûne, il tombait toujours dans les mêmes revers. Cela n'est pas la repentance. La repentance n'est pas le remords. On a un exemple dans la Bible. Vous vous souvenez de Judas? Il a été épris de remords. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas repenti. Il est parti voir le prêtre, il a jeté les 30 pièces d'argent, et qu'est-ce qu'il a fait? Et il s'est pendu. Les remords ne sont pas la repentance. S'il était revenu vers le maître, s'il était revenu vers le maître et qu'il s'était jeté à ses pieds, qu'il aurait demandé pardon pour... Il serait repenti et Dieu l'aurait pardonné, Jésus l'aurait pardonné. Mais cela n'a pas été le cas. Également prier. C'est étrange. Prier n'est pas se repentir. C'est étrange. Ça peut paraître étrange, mais bien des gens désirant d'être sauvés se confient dans leur prière. Ils se confient dans la lecture de la Bible. Ils s'imaginent qu'à force de lecture et qu'à force de prière, ils vont être pardonnés. Ça va amener la repentance. Il s'imagine que ça tient lieu de repentance, alors que cela n'est pas le cas. On peut crier à Dieu sans être converti. Si c'est ton cas, Dieu t'encourage ce soir à te convertir et à te repentir, à te tourner totalement vers le Seigneur, à ne pas vivre ta vie à la légère, mais à la vivre concrètement, complètement, totalement. Et à ne pas faire semblant. Renoncer à un péché particulier n'est pas la repentance. Imaginez, imaginons-nous dans un bateau, en pleine mer, alors qu'il y a 10 trous dans la coque. Si j'en bouche un, les 9 autres, l'eau continue à couler. Vous êtes d'accord avec moi? Si j'en bouche 2, l'eau continue à couler avec les 9 autres trous. Si je coupe une branche de l'arbre, cela n'est pas suffisant. Renoncer à un péché particulier, ce n'est pas non plus un indice suffisant de repentance. Renoncer à un seul péché, c'est couper une seule branche de l'arbre. Mais c'est l'arbre tout entier qui doit être arraché, et non pas seulement une branche. Alors vous me poserez peut-être la question, mais qu'est-ce que la repentance ? Dans un langage militaire, on appelle ça changer de... Dans un langage militaire, on appelle ça un demi-tour à droite. Je suis un chemin, je suis par exemple l'allée, et je sais que c'est un mauvais chemin. Je prends conscience que c'est un mauvais chemin. Qu'est-ce que je fais ? Je continue à marcher ? Répondez-moi. Qu'est-ce que je fais ? Je fais un demi-tour droite. Et je reviens sur mes pas. Et je suis la voie qui me semble blanc. Bon. Jésus dira, je suis le chemin. Et c'est ce chemin-là que je veux suivre. Alléluia. Et je ne vais pas marcher avec une seule main. Je ne vais pas marcher avec un seul pied. Je veux marcher avec tout mon corps. Je veux arracher tout l'arbre. Et je veux suivre Jésus. Je vais faire un demi-tour droite et suivre Christ. Complètement et totalement. Et ne pas faire semblant. Bien-aimé, ne fais pas semblant. Mais donne-toi tout entier. Dans la repentance. À revenir à Christ. C'est changer de direction. C'est marcher dans le sens opposé du chemin à laquelle on suivait. On est bien souvent séduit ou on est bien souvent attiré par la manière de penser. On semble que cela est juste. Et bien souvent, quand ça nous arrive une situation qui est mauvaise, on se dit « Ah, c'était un mauvais chemin ». Il nous faut nous retourner. Sinon, si je continue sur ce chemin, la Bible nous dit que la fin de ce chemin, c'est la mort. La fin de ce chemin, c'est la mort. Alors que celui qui se repent et qui fait demi-tour et qui revient sur ses pas et qui décide de vivre conformément aux Écritures, non pas seulement de corps pour paraître devant les gens, mais d'âme et d'esprit, de cœur également, un cœur tout entier à Jésus-Christ. Seigneur, nous encourage ce soir à vivre un cœur à cœur. Beaucoup de gens sont... comme le dit la Bible, se disent loyaux, se disent chrétiens, se disent, mais peuvent vivre cette véritable repentance. Et Dieu t'encourage ce soir à vivre cette véritable repentance, cette vie complète et totale avec lui. Prenons exemple Matthieu chapitre 21, les versets 28 à 29. On lit ceci, « Que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Après qu'il eut dit non, il réfléchit. Il a réfléchi à son comportement. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rester comme ça dans sa réflexion ? Non, il va se repentir, il va changer de direction, il va y aller, il va obéir. Il va changer d'avis. Peut-être se dit-il que peut-être qu'il n'a pas respecté son père, peut-être que je n'ai pas respecté mon père. Peut-être qu'il m'a demandé d'aller travailler, mais j'ai refusé. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Maintenant, je fais un demi-tour et j'obéis à mon père et j'accomplis. Après, vous me direz, mais est-ce qu'on peut se repentir sur le champ ? Peut-on se reconvertir sur le champ ? Certainement, oui. On peut se repentir sur le champ. Alors que j'ai compris ma misère, alors que j'avais compris que j'étais un pécheur, alors que j'ai compris que j'avais emprunté une mauvaise voie dans ma vie, j'étais alcoolique dépendant, je fumais beaucoup, il y avait des choses encore qui étaient là, ancrées en moi, alors que j'avais compris les choses, alors que je réfléchissais, je me suis dit, ben oui, c'est un mauvais chemin. Je me suis repenti, j'ai fait demi-tour et j'ai changé radicalement de vie. Alors que j'étais voleur, je ne volais plus. J'ai commencé à travailler, à gagner un salaire pour pouvoir payer moi-même les choses. Oui, c'est possible de se convertir sur le champ, de se repentir sur le champ. Et tu peux le faire ce soir, se convertir sur le champ, changer littéralement de chemin et prendre le bon chemin. Il ne faut pas 6 mois pour changer d'avis. Il y a un moment dans la vie de tout homme où il faut s'arrêter et dire, oui, par la grâce de Dieu, je n'irai pas plus loin sur le chemin que j'ai emprunté, sur le chemin qui me mène à la mort éternelle. Mais je vais changer de voie et je vais emprunter le chemin de la vie éternelle, le chemin de Jésus. Et pour emprunter ce chemin, c'est accessible à tout le monde, qu'il soit enfant, pré-ado, ado, jeune, couple, personne âgée. Et ce chemin-là est accessible à tous. La repentance est accessible à tous. Et c'est possible de marcher, quel que soit mon âge, c'est possible de marcher dans cette repentance-là, dans ce chemin-là. Alléluia. Et d'ailleurs, tous les exemples qu'on retrouve dans la Bible, ce sont des exemples de conversion, de repentance qui sont radicaux. C'est instantané. C'est des conversions qui sont instantanées. La repentance et la foi viennent tout de suite. Le plus souvent, c'est soudain, au moment où l'homme se décide. Mais il faut que tu te décides. Il faut que tu te décides à marcher dans ce véritable chemin, à ne plus faire semblant. Les gens de l'extérieur font semblant, et ça, c'est leur problème. Mais toi, moi, nous ne voulons pas faire semblant. Nous voulons vivre la véritable repentance. Nous voulons vivre la véritable vie de Christ. Nous voulons vivre cette vie riche spirituellement en Christ. On veut la vivre complètement. On veut éviter toutes les choses qui sont mal, ce qui sont condamnées par la Bible. Et on veut vivre droitement dans la justice, dans la sanctification, dans l'amour, dans la vie éternelle, la vie de Christ. Et plus faire semblant. Fini le paraître. Je veux être devant Christ. Et cette véritable repentance va amener des fruits. Les fruits de la repentance. C'est Jésus qui va utiliser une parabole pour parler des fruits de la repentance. Luc chapitre 13 et les versets 6 à 9. On lit ceci, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il y vint chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Au verset 8, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Jésus va décrire la déception du propriétaire du figuier. Il va dire, j'attends depuis 3 ans du fruit de ce figuier, mais je ne trouve rien. Je n'ai plus la patience d'attendre encore. Celui-ci va donner l'ordre au vigneron, mais coupe-le. Parce qu'il occupe inutilement la terre. Notons ensemble ce mot inutilement la terre. Pour ceux qui sont spécialistes arboristes, tout ce qui est arbre fruitier, un arbre fruitier ne donne pas du fruit généralement pendant la première année, ni même la seconde, ni même la troisième. C'est au bout de la quatrième année qu'un arbre fruitier donne ses fruits. Et du coup, dans cette parabole, on peut se mettre à la place du vigneron. On se dit, après les 3 ans, il a attendu encore 3 autres années pour voir s'il allait vraiment donner du fruit, que le figuier allait donner du fruit. Et pendant 3 ans, il patiente. Il y a un laps de temps. Il patiente, il espère. Il dit, ce figuier va donner du fruit. Alléluia, il va donner du fruit. La quatrième année, pas de fruit. La cinquième année, pas de fruit. Et la sixième année, pas de fruits. Et il dit au vigneron, mais pourquoi il occupe inutilement la terre? D'ailleurs, tous ceux qui s'occupent des arbres savent que lorsqu'un arbre ne donne pas de fruits, et c'est vrai, il occupe inutilement la terre, et c'est propice à engendrer des mauvaises herbes et d'autres choses autour, et qui n'est pas forcément bonne pour... Dans cette parabole-là, il y a la vigne, le figuier qui est là. Et elle n'est pas forcément bonne pour la vigne. Et du coup, il dit, mais coupe-le, jette-le, parce qu'il occupe inutilement la terre. Et alors, le vigneron dit, mais attends, attends une année, je vais creuser tout autour, je vais mettre du fumier, peut-être, j'espère encore, j'espère qu'il va porter du fruit. Et on se rend compte que ça va être la septième année. On se rend compte que ça va être la septième année, un an de plus. L'arbre aura 7 ans au terme de cette période-là qu'on dira de grâce. 6 ans ou 3 ans où le vigneron va, le propriétaire va dire, mais il ne donne pas de fruits. Ça nous parle du fruit de la repentance. Peut-être qu'il y a parmi nous une personne qui est comme ce figuier, qui s'est converti, qui s'est repenti, mais qui pourtant ne porte pas de fruits. Jésus, comme un doux vigneron, va prendre soin, il va creuser autour, va mettre du fumier. Attends, Seigneur, attends, peut-être qu'au bout de la septième année, il va porter du fruit. Mais le propriétaire va dire, mais il occupe inutilement la terre. Jean-Baptiste dira, alors que la hache est mise à la racine, pour pouvoir la couper. La repentance, elle produit du fruit. Si elle ne produit pas du fruit, la parabole, elle parle d'elle-même. L'arbre sera retranché. Et ça nous parle du jugement divin. Ça nous parle du jugement divin. Il est temps ce soir de te repentir. Il est temps ce soir de porter du fruit digne de la repentance. Et de ne pas rester sur ses acquis. Ne pas rester sur peut-être une vie antérieure où j'ai côtoyé cela. Non. Maintenant, il est temps. Aujourd'hui, il est encore temps. Demain, on ne le sait pas. Demain ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qui peut nous arriver 1 heure, 2 heures ou 3 heures après. Je ne sais pas si j'ai raconté l'histoire d'une sœur qui, après avoir passé un bon culte dans la présence de Dieu, pour souligner en fait que l'avenir ne nous appartient pas. Même les heures à venir ne nous appartient pas. Alors que on était là à l'église avec les frères et sœurs, on adorait le Seigneur. Il y avait une sœur qui était là, qui dansait, qui priait, qui rendait gloire à Dieu pour ses enfants. Et alors qu'on s'est séparés, on avait terminé vers 21h, les frères et sœurs commençaient à rentrer. Et nous, on était rentrés à la maison. 1 heure après, cette dame-là, qui avait loué le Seigneur, fauchée par une voiture, mort sur le coup. Pour vous montrer que l'avenir ne nous appartient pas. Il est temps aujourd'hui de se repentir et de porter du fruit digne de la repentance. Encore, c'est encore jour de grâce. Il y a un laps de temps. Dans l'histoire du figuier, il y a eu 7 ans. Il y a eu un terme. Et on sait très bien que la Bible parle d'un terme où Christ reviendra. Il rassemblera ceux qui seront repentis réellement et qui auront manifesté les fruits de la repentance. Et ceux qui ne l'auront pas fait seront retranchés, seront coupés et mis dans la géhenne de feu. Cela est une réalité. Demain ne nous appartient pas, c'est maintenant jour de grâce. Et c'est toujours jour de grâce. Dieu ne veut pas qu'on occupe le terrain inutilement, mais qu'on produise du fruit, digne de la repentance. J'étais voleur, je ne vole plus. J'étais hypocrite, je ne le suis plus. J'étais orgueilleux, je ne le suis plus. J'étais méchant, mais je ne le suis plus. J'étais un menteur, mais maintenant je ne le suis plus. Manifester les fruits dignes de la repentance. Un changement radical de vie, d'état d'esprit, de pensée et de manière de vivre. C'est parce que je suis devenu chrétien que je suis exempt de tout mal. C'est impressionnant parce que Jésus utilise le figuier. Bon, il aurait pu utiliser l'olivier. Il aurait pu utiliser d'autres arbres qu'on trouverait en Israël. Pourquoi le figuier? Le figuier donne, au bout de sa 3e année, sa 4e année, durant toute l'année, porte toujours du fruit. C'est l'arbre le plus fertile en Israël. Il peut donner durant une année 3 récoltes. Et c'est surprenant quand on sait ces choses-là et quand on regarde la parabole du figuier, on se dit, mais pourquoi il n'a pas donné du fruit? Pourquoi, au bout de la septième année aussi, il n'a pas porté du fruit? Alors que le figuier est un arbre fruitier, abondant, fertile, croissant. C'est une image que Christ veut nous donner. On est comme ces figuiers-là, on est appelé à porter du fruit digne de la repentance. Mais si ce n'est pas ton cas, je t'encourage encore ce soir à manifester ces fruits dignes de la repentance, à ne plus faire semblant. Les gens du dehors peuvent chercher à paraître devant les... Mais Dieu ne regarde pas au paraître, il regarde à ton cœur. Il veut tout ton cœur, il veut que tout soit à lui, mais que tu manifestes également les fruits. Et que ce fruit-là demeure. Que ça ne dure pas qu'une semaine, deux semaines, un mois, trois mois, quatre mois, mais que cela perdure dans le temps. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut. Est-ce que tu voudrais pas cela? Christ a donné sa vie. Christ est descendu et a pris toutes nos maladies, nos péchés, le jugement qui était sur nos têtes. Il l'a pris à la croix du calvaire, il les a cloués. Et maintenant, il nous propose la grâce. La grâce de l'exemple. On est exempt de ce jugement-là à cause de Jésus-Christ. Et tu refuserais ça pour continuer à vivre dans ce que tu vis. La vie en Christ est bien plus glorieuse et elle n'est pas d'ici-bas. Elle sera glorieuse quand il viendra nous chercher. Mais c'est en touche, c'est palpable. Mais on l'expérimentera une bonne fois pour toutes lorsqu'il viendra. Dans la mesure où on se repent, dans la mesure où je marche, je fais un demi-tour et je change littéralement, métanoïa, changer littéralement de pensée, d'esprit, de détermination, que je change littéralement. Le temps est court, et le temps est court et demain ne nous appartient pas. C'est dans Marc 3 où on lit ça, Marc 3, verset 8. Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. Mon grand-père était chrétien. Mon papa était chrétien. Oui, j'ai fait le catéchisme. Ça va. Nous sommes les descendants d'Abraham. Car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. La version Semeur. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Et ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Et pourquoi nous faudrait-il plus de temps que Dieu ne nous en donne déjà, à cet instant même, aujourd'hui même, à cette minute même, si vous le voulez? Vous pouvez vous détourner de vos péchés et être délivré complètement. Dans sa grande miséricorde, Dieu a accordé à chacun un sursis. On est en sursis. Personne ne maîtrise l'avenir. Une période de grâce, comme le figuier. Il y a une certaine période où le vigneron est là et il espère que nous portions du fruit. Mais quand il ne voit pas porter du fruit, il le coupe. Nous sommes dans une période de grâce, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance, comme nous l'encourage l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 3 et le verset 9. Il est disposé à faire 2000 avec nous, et il en fera 3 ou même 4, s'il le faut pour sauver le pécheur. Peut-être que tu es baptisé, mais tu ne vis pas cette vie. Tu ne produis pas ce fruit de la repentance. Dieu t'encourage. Cela est salutaire pour ta vie. Aujourd'hui, tu peux te remettre au diapason de Christ, au diapason de Dieu. Cela est salutaire. Il ne peut pas remettre le jugement indéfiniment parce qu'il faut que cela s'abatte. Le jugement sera inévitable. Et pour terminer, en conclusion, le prophète Ézéchiel le dira dans le chapitre 18 et le verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Mais repentez-vous. Convertissez-vous. Convertissez-vous donc. et vous vivrez. Si tu ne te convertis pas, si tu ne te repens pas, c'est la mort qui t'attend. Cela est la vérité. Que feras-tu? Prions.